Departure to Oporto, Portugal 5106, gate number 3.
Départ à destination de Mykonos, lundi et mercredi, l'île de Pâques jeudi, Fidji vendredi.
La planète bleue, décollage immédiat.
Be kind. Be kind.
How tall will I grow?
Only time will show.
It passes by slowly. I feel hollow and tiny.
Vous êtes bien sur la planète bleue.
Be kind.
We plant our love in you.
A augmenté de 33%, ce qui est évidemment colossal. Mais vous savez de combien a augmenté la consommation de viande pendant la même période? De 100%. La planète bleue, l'actualité à venir, les musiques du monde de demain. Aujourd'hui, nous allons voir que le trafic de déchets toxiques et radioactifs bat son plein vers la Calabre, au sud de l'Italie. Le principe est simple, en pratiquant des tarifs sans concurrence, la mafia décroche la plupart des marchés de traitement des déchets. Au lieu de traiter les déchets, elle s'en débarrasse en mer, dans les campagnes, les chantiers et fait des profits colossaux. Grâce aux prix cassés pratiqués par la mafia, les industriels européens font d'énormes économies et augmentent leurs profits. Nous allons nous intéresser à l'évolution de nos rapports avec le monde animal. Le sort des animaux préoccupe de plus en plus de gens en Occident parce que nous prenons conscience des souffrances inouïes qui leur sont infligées dans les élevages intensifs, dans le monde de l'expérimentation et dans les cirques et autres delphinariums. Nous allons voir que les Inuits disposent de 40, 50, peut-être même 60 mots différents uniquement pour qualifier la neige et la glace. À quoi sert une telle richesse de vocabulaire? Est-ce que c'est juste utile pour des gens qui vivent dans le froid? Ou est-ce que ça peut les rendre plus heureux? Nous allons voir que s'il était guetté au tournant, Blade Runner 2049, la suite du monument de Ridley Scott, 35 ans plus tard, en a en effet déçu plus d'un. Depuis que les producteurs ont pris le pouvoir sur les réalisateurs, depuis que les techniciens financiers ont pris le pas sur les auteurs, évidemment, à Hollywood, on ne fait plus tout à fait les mêmes films. Nous allons redécouvrir l'album étourdissant que John Hassell a enregistré en 1981 à son retour de Malaisie, Dream Theory in Malaya. Cet album culte, connu des seuls passionnés, a pourtant marqué l'histoire de la musique en inventant la world music intelligente. Il vient d'être réédité, enfin, nous l'écouterons dans quelques minutes. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de Cologne à Saint-Pétersbourg, de Copenhague à Stockholm, de Tunisie à La Réunion, de Chartres jusqu'au Grand Nord canadien, de Belgique en Grèce, de Grande-Bretagne en Slovénie, de Malaisie en Californie via Paris, générique complet du programme musical, en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue, libre.
Planète bleue, Yves Blanc.
C'est l'histoire d'une planète, on l'appelait la planète bleue, parce qu'elle était couverte aux deux tiers par les océans. Et cette planète faisait du bruit, elle émettait une multitude de sons, à dire vrai, une véritable cacophonie. Il fallait s'approcher très près, mais vraiment très près, et endosser son stéthoscope pour arriver à entendre quelque chose de distinct sur cette planète. En fait, c'est l'histoire d'une fille qui s'approchait de cette planète, un stéthoscope à la main. Le genre de fille qu'on appelait une écouteuse. Une écouteuse. Mais dites-moi, je vous reconnais? Cette fille, c'est vous?
You really took my breath, now you in my life. The sunken eyes of yours makes me feel alive. Every step you take, I follow you. I listen to your heartbeat, give you all the love you need. The night when it felt so wrong, I don't even care, we must carry on. Examine every file, why break the code? I listen to your heartbeat, give you all the love you need. It brought us to a place where we could be together. You made me feel this way, our love will last forever. Sometimes I don't know how I feel about the weather. We should stay together. It brought us to a place where we could be together. You make me feel this way, our love will last forever. Sometimes I don't know how I feel about the weather. We must stay together.
Chargés à ras-bord de substances radioactives, reposeraient au fond de la Méditerranée. Des bateaux volontairement sabordés afin de faire disparaître discrètement leurs encombrantes cargaisons. La planète bleue vous révélait ce scandale il y a plus de 15 ans. Visiblement, le trafic de déchets hautement toxiques et radioactifs n'a pas disparu, loin de là. Il serait même dorénavant directement organisé entre la filière nucléaire et la mafia calabraise. On parle même d'une mafia de l'environnement. Mais le plus grave, c'est que, selon les enquêteurs italiens, ce sont des agences d'État qui négocieraient dorénavant directement avec la mafia. La Calabre, région magnifique et sauvage au sud de l'Italie, serait devenue la poubelle de l'Europe. Le principe est simple, en pratiquant des tarifs sans concurrence, la mafia décroche la plupart des marchés de traitement des déchets et, au lieu de traiter les déchets, elle s'en débarrasse en mer, dans les campagnes, les chantiers et fait des profits colossaux. Grâce au prix cassé de la mafia, les industriels européens font eux aussi d'énormes économies et augmentent leurs profits. Procureur de la République assassiné, autopsie truquée, absence de statistiques sur les troubles médicaux, assassinat, bidons d'uranium enrichi, immergé ou enterré, décharges illégales débordant de substances toxiques venues de toute l'Europe nucléaire et chimique, Allemagne, France, Autriche, Belgique, Pays-Bas, trafic d'armes chimiques qui mettent en cause plusieurs États extra-européens comme la Syrie, la Russie, les États-Unis, voitures pleines de déchets radioactifs coulés au fond des rivières, camions chargés de fûts disparaissant en pleine nuit, containers soi-disant vides mais lourdement chargés transitant par la Calabre, bidons toxiques abandonnés dans les campagnes, déchets radioactifs coulés dans le béton pour construire les tunnels autoroutiers, enfouis dans le sol et sous les vergers, dans des mines secrètes, des déchetteries et carrières illégales, des usines désaffectées, dans des vallées perdues, dans les montagnes. Des écoles ont même été construites sur et avec des matériaux toxiques. Les enfants et les enseignants souffraient de cancer, on a fini par les fermer. La terre est polluée, l'eau est polluée, les populations locales semblent résignées. Déjà très pauvres, elles périssent empoisonnées. Les morts dues à des tumeurs cancéreuses se multiplient de façon spectaculaire à travers la Calabre. Le chiffre d'affaires de la mafia calabraise est estimé à 50 milliards d'euros par an. La justice parle de trafic de déchets en bande organisée. Les services secrets italiens ont repéré une centaine de sites en mer où ont lieu des activités douteuses, mettant en cause des sabordements de navires chargés de déchets toxiques et ou radioactifs. Mais rien n'est fait. Vous imaginez les moyens dont dispose la mafia de l'environnement pour pouvoir contourner les services spéciaux. Elle a des ramifications en Corse, à Marseille, sur une bonne partie de la Côte d'Azur, dans toute l'Europe et une partie du monde. Ça fait maintenant 50 ans que la mafia investit dans les déchets chimiques et nucléaires. L'Europe de la mafia est très en avance sur l'Europe politique.
Yeah! toute apparence, la planète semble être un miroir de notre monde. Ça va de la structure des continents aux océans. Même leurs villes sont nos villes.
Et où en sommes-nous en termes de communication?
C'est là où je voulais en venir. Si cette planète maintient des formes de vie intelligentes à des niveaux comparables...
Vous soulevez un point important. Jusqu'ici, nous n'avons rien, si ce n'est une cacophonie de signaux radio dont les plus forts émanent de radars militaires.
Le problème avec ces signaux radio, c'est que nous ne pouvons pas les isoler pour les analyser.
Ce sont peut-être que des spéculations. Cela pourrait être une sorte de miroir cosmique.
Vous avez produit un nombre incroyable d'écrits présentant toutes les théories plausibles sur la similitude entre nos deux planètes.
Cette planète existe, elle a une masse et nous pouvons clairement discerner son orbite. Elle envoie même des signaux radio.
ماشي غير نفذو حلمو اللي ما نجمش يقوم بي في صبرو ما عنده حتى حق علي ما فهموش اللي العظمة الخارج نجم تعمل ثق والدي
de l'homme à la nature évolue depuis les années 70. Premier choc pétrolier en 73, apparition de l'écologie politique avec le Club de Rome en 72, René Dumont en 74. Si l'évolution de notre relation avec le monde animal est beaucoup plus récente, elle a été préparée en amont par le travail de fond de quelques chercheurs dont l'opinion, la sensibilité personnelle, a elle-même souvent évolué au cours de leurs recherches. La philosophe Corinne Pelluchon l'explique, le sort des animaux préoccupe de plus en plus de personnes aujourd'hui en Occident parce qu'elles prennent conscience des souffrances inouïes qui leur sont infligées dans les élevages intensifs, l'expérimentation ou les cirques. La cause animale est ainsi entrée dans la cité, elle n'en sortira pas. On peut le vérifier de façon un peu anecdotique dans l'actualité internationale. En France, le parti animaliste, âgé de moins d'1 an, a quand même obtenu suffisamment de suffrages aux dernières élections législatives pour bénéficier du financement public. Un tribunal argentin a ordonné la remise en liberté d'une chimpanzée du zoo de Mendoza, qui va donc être relâchée dans une forêt brésilienne après 19 ans de vie en captivité. Juste avant de quitter ses fonctions de ministre de l'Environnement, Ségolène Royal avait promulgué un arrêté interdisant la reproduction en captivité des orques et des dauphins, ce qui signait enfin la fin des delphinariums de la Côte d'Azur, comme ça a déjà été le cas dans plusieurs autres coins du globe. Mais on peut lire notre intérêt récent pour le respect de la vie animale à l'aune d'un phénomène d'une ampleur historique. Nous sommes entrés dans la 6e grande phase d'extinction d'espèces dans l'histoire de la planète. Si on y associe le dérèglement climatique et les déchets nucléaires, on peut discerner ce qui va rythmer les siècles prochains. Du coup, la notion révolutionnaire de droit animal, apparue dans les années 60, progresse. On parle d'antispécisme, c'est-à-dire du refus de donner à Homo sapiens une place prédominante par rapport aux autres espèces animales. On peut sans doute reprocher aux vers d'avoir raté ce rendez-vous, d'autant qu'historiquement, la cause animale a toujours été plus proche des valeurs de gauche. Une littérature conséquente s'est développée, de « L'animal est une personne » de Franz-Olivier Gisberg à « Steak Machine » de Geoffroy Le Guilcher. Les actions coup de poing de certaines associations, telles L214, ont été abondamment relayées par les réseaux sociaux, conduisant les grands médias à s'en faire écho. Depuis une dizaine d'années, l'éthologie s'intéresse à la personnalité propre d'un animal, et c'est passionnant. Elle s'intéresse à ce qui le rend plus ou moins curieux, explorateur ou conservateur, méfiant. Tous ces traits de caractère, il y a encore quelques années, on ne les aurait attribués qu'à des humains. Il paraît que cette évolution rapide de l'éthologie coïncide avec la féminisation de la discipline. Un peu de la même façon, nombre de chercheurs tout autour du monde s'intéressent aujourd'hui de plus en plus au comportement des plantes, à leur sensibilité, à leur communication. Peut-être qu'une nouvelle discipline est en train de voir le jour. Si le sujet vous intéresse, voyez le passionnant dossier original et documenté que lui consacre l'excellente Revue du Crieur, dont on ne cesse de vous dire du bien sur la planète bleue. La Revue du Crieur, sûrement aujourd'hui le meilleur MacBook disponible en librairie.
Mais pas vite. Получите, пожалуйста, диагностические показатели.
Получаю данные. 18:38.
Все в порядке на вашей шкале? Последняя запись завершена.
400 метров, 350.
Давление упало на 30%.
Поверьте все метаболические действия. И затем подключите нас. Если упадет, мы попробуем.
Температура стабилизировалась. Сердечная дыхательная деятельность теперь на контрольно-измерительном приборе.
Закройте щитки и дайте левую руку мне.
4, 5, 6.
Все нормально.
Мне так нравится La Planète Bleue. Такая международная, футуристическая, голубая планета. Этим все сказано.
Thank you.
Une légende moderne raconte que les Inuits auraient plus de 40 mots différents pour qualifier la neige. Allons bon, 40 termes pour qualifier la neige. Certains se demandent à quoi peut bien servir une telle curiosité linguistique. Selon l'Encyclopédie canadienne, l'anthropologue John Stackley aurait listé pas moins de 52 mots différents en Inuktitut pour qualifier la neige et la glace. Mais cette croyance a été remise en cause par plusieurs linguistes et anthropologues. L'estimation dépend évidemment de la façon de décompter les termes. Dans son dictionnaire de l'Inuktitut de Nunavik, le Québec arctique, le linguiste Lucien Schneider cite une douzaine de mots de base pour désigner les différentes formes de neige et une dizaine d'autres pour la glace. Ce à quoi il convient d'ajouter la façon dont les mots se combinent avec d'autres éléments, car l'Inuktitut est une langue dite agglutinante, dont les mots sont généralement constitués d'un élément de base, le radical, qui indique le sens de départ, auquel s'ajoutent d'autres éléments, les affixes, qui viennent préciser ou modifier le sens de base. Au total, l'observateur zélé découvrira une kyrielle de termes pour qualifier les différentes formes de neige et de glace, sans doute plus encore que la cinquantaine repérée par John Stackley. Mais puis-je me permettre de vous inviter à regarder les choses un peu différemment, camarades écouteurs, sous un autre angle? Franchement, que les Inuits disposent de 48 ou 65 mots différents pour qualifier la neige, est-ce vraiment ça le plus intéressant? Le plus intéressant ne serait-il pas la richesse formidable que ça leur procure? Nous, quand il neige, on dit « Oh, il neige !» ou alors « Oh, zut, il neige !» Les Inuits, eux, disposent d'une toute autre palette, d'une multitude de nuances, de subtilités, pour qualifier la couleur, la matière, la densité, la résistance, l'humidité, l'usage possible de chaque neige. Une richesse inouïe qui permet de penser et d'exprimer richement chaque subtilité de chaque cristal de neige. Une richesse de la vie, un peu plus de culture pour un peu plus de bonheur. Tant qu'il reste de la neige et de la glace. Il y avait un joli film noir qui mettait en scène cette capacité à voir dans la neige ce qui nous échappe à nous. C'était Smila's Sense of Snow de Billy August. À Copenhague, un enfant inuit est précipité du toit d'un immeuble par des scientifiques peu scrupuleux. Mais la voisine du petit Inuit, elle-même d'origine groenlandaise, est glaciologue. Elle sait lire les cristaux de neige. La touchante Julia Ormond, accompagnée par l'élégant et ténébreux Gabriel Byrne, va déjouer les pratiques vénales de la mafia scientifique et industrielle. Un polar polaire imparable et exemplaire, superbement écrit, incarné et dirigé par Billy August, danois mal aimé, quoique lauréat de 2 palmes d'or à Cannes. Son thriller ethno était enthousiasmant, bien que passé inaperçu chez nous lors de sa sortie, il y a maintenant 20 ans.
Mi père va me ramener.